Chapitre 3. Peggy Mitchum souffrait terriblement. Les fractures qui avaient réduit en miettes son bassin et ses membres inférieurs lui faisaient endurer le martyre. On l'avait déjà opéré 7 fois. Ses jambes, hérissées de broches, de vis, lui donnaient l'allure d'un androïde bricolé par un savant fou. Elle ne trouvait de soulagement que dans les perfusions de morphine quand elle sombrait dans le néant moelleux de la drogue. Si ça continue, se répétait-elle, je vais finir accro. Ces accoutumances étaient encore assez fréquentes chez les grands blessés. Les médecins l'avaient mise en garde. Elle devait apprendre à surmonter la douleur, arriver à une certaine forme de détachement zen. Ben tiens, elle aurait voulu les y voir, eux. Elle te leur en aurait foutu du zen. Elle conservait un souvenir flou de ce qui s'était passé après sa chute. La souffrance lui avait fait perdre connaissance. Quand elle s'était réveillée, Nora Farbrooks et les sauveteurs la hissaient à bord d'un hélicoptère. Après, elle ne savait plus. Au terme d'une parenthèse nébuleuse, elle avait repris conscience dans un lit d'hôpital, les membres en extension, fistés dans un invraisemblable carcan, l'avocate assise à son chevet. « On vous a ramené à L.A. » lui expliqua Nora avec un sourire 100% artificiel. « Vos commanditaires sont extrêmement satisfaits. Grâce à ce que vous avez ramené de la montagne, la procédure de succession s'est débloquée. Conformément au contrat, les soins nécessités par votre état seront à l'entière charge des héritiers. Ils n'ont fait aucune difficulté lorsque j'ai exigé que vous soyez hospitalisé dans une clinique spécialisée dans la remise en forme des professionnels du sport. Vous serez bien entouré. Au cours de votre séjour, il vous arrivera de croiser des célébrités de stature mondiale, coureurs automobiles, grimpeurs, champions de deltaplane. Elle discourait sans reprendre haleine, en évitant de porter les yeux sur le corps brisé de Peggy que les draps dissimulaient mal. « J'en ai pour combien de temps ?» demanda celle-ci. « 2 mois ? 3 ? 4 ?»« Aucune idée, » souffla Nora, sans chercher à travestir sa gêne. « Dans tous les cas, il va falloir faire preuve de patience. Les médecins qui s'occuperont de vous sont des champions dans leurs disciplines respectives. Tous les frais annexes sont payés par les héritiers de Carpenter. N'hésitez donc pas à réclamer de quoi améliorer votre ordinaire. Livres, vidéos, CD, cours d'arrangement floral, de méditation zen. Où sommes-nous ? À L.A., je vous l'ai dit, dans les collines, loin du bruit, à proximité de Laurel Canyon, secteur bohème chic, comme vous savez. La clinique est cachée au cœur d'un parc magnifique. On ne peut même pas l'apercevoir de la route. Elle semblait pressée de s'en aller. Elle ne reviendrait jamais. Pour elle, le dossier était classé. Dans les jours qui suivirent, Peggy Mitchum mena une vie larvaire, entre assoupissement et douleur, examens et soins humiliants. Elle ne pouvait pas s'asseoir. Son corps, qui pendant des années l'avait toujours fidèlement servi, était devenu son pire ennemi. Elle ne supportait pas de mener une vie grabataire. Cette existence lui avait toujours fait horreur. Aujourd'hui émergeaient du passé des souvenirs de visites domiciliaires effectuées, petite fille, en compagnie de son père, à des vieillards impotents recroquevillés dans les cabanes du bayou. Et à chaque fois, la même déchéance, le même croupissement, les membres tordus, les chemises de nuit pisseuses, les odeurs. Allait-elle finir ainsi, clouée sur un lit avec pour seule compagnie une infirmière à pointer qui lui ferait sa toilette en maugréant, avant de la caler dans un fauteuil roulant? Elle, Peggy Mitchum, qui avait nagé au fond des océans, exploré le pôle, escaladé des montagnes. Elle, la fille de l'eau, du vent et des hauteurs, allait-elle attendre le terme de ses jours entre les accoudoirs d'un fauteuil à roulettes, échouée au milieu de plates-bandes fanées d'un jardin que personne n'entretenait plus? Même en admettant l'impossible, même si les médecins réussissaient à accomplir des miracles, elle pourrait tout au plus se déplacer avec une canne, à petits pas prudents. Plus jamais il ne serait question d'escalade, de plongée dans les grands fonds. Il lui faudrait se résoudre à mener une vie parcimonieuse, une existence de retraité faite de bonheur minuscule, une tasse de bon café, une part de tarte aux noix de pécan. Et, Les jours de débauche, une cigarette peut-être, ou un verre d'alcool. En serait-elle capable? Y avait-il assez de résignation ou de philosophie en elle pour accepter ce dénuement, ce rétrécissement quotidien? Elle ne croyait pas. Depuis l'âge de 18 ans, elle avait vécu sur les chapeaux de roue à la limite de l'accident. N'hésitant pas à s'embarquer dans les histoires les plus dangereuses, au bras de messieurs infréquentables. Elle ne regrettait rien. Même si ce travers l'avait condamnée à finir en miettes au pied d'une montagne, une tête coupée accrochée à sa ceinture. Jamais elle n'aurait pu se contenter de l'horizon limité d'un bureau, d'une cuisine. Les grands espaces, oui. Elle n'aurait pu vivre sans les grands espaces. Et maintenant, quel serait son futur? Elle était malheureusement trop jeune pour se contenter d'attendre l'échéance en somnolant au soleil, à la manière des petits vieux agglutinés le long des plages de Floride. La stratégie de l'assoupissement? Oui, c'était possible quand le temps qui vous était imparti touchait à sa fin et qu'on n'avait pas à s'attarder trop longtemps dans la salle de transit. Elle n'était pas dans ce cas. Alors quoi? Abréger l'attente, peut-être? Avec une dose de tranquillisant ou une balle dans la tête? Elle songea au pistolet automatique qu'elle dissimulait chez elle sous une latte de plancher. Quelle idiotie! Comment le récupérer à présent qu'elle ne pouvait plus se pencher? Elle n'allait tout de même pas demander à son aide ménagère de le faire à sa place. Si! Les amis, elle n'en avait plus guère aujourd'hui. À sillonner le monde, elle avait fini par les abandonner ici et là, sur une plage, un port, un aérodrome. Elle s'était toujours promis de les rappeler, de les revoir, de... Et puis, le temps bien sûr, le manque de temps, la course en avant, le fric à trouver, les amants d'une nuit. On se dit qu'on est encore jeune, qu'on s'appliquera à corriger tout ça dès qu'on pourra s'arrêter de courir un moment. Le problème, c'est qu'on ne s'arrête jamais de courir. Ainsi songeait Peggy Mitchum, à la lisière du dégoût et du désespoir, la tête balayée par un blizzard au parfum de morphine. Au bout de 2 semaines, on lui permit de sortir dans le parc sous la surveillance d'une infirmière. Elle se remettait tout juste d'une nouvelle intervention. Le chirurgien lui avait avoué ses inquiétudes, ses os cicatrisaient mal. Il était possible que ses 2 tibias explosent tels des sucres d'orge lorsqu'elle tenterait de se mettre debout. Elle devrait peut-être se passer de marcher. En tout cas, c'était une éventualité à quoi elle devait sérieusement réfléchir. Enfin, le tout c'est d'être encore en vie, non? Après une chute pareille, pensez donc, un vrai miracle. Peggy vivait donc embusquée au coin d'une pelouse, tripotant un roman qu'elle lisait au rythme de 3 lignes par heure. Pour tromper son ennui, elle regardait les autres malades évoluer autour d'elle. Il y avait là un célèbre coureur automobile, brûlé au visage, venu subir une grève de peau. Une danseuse étoile dont on essayait de rafistoler le genou. Un cavalier émérite, 3 fois médaille d'or aux Jeux olympiques, que son cheval avait piétiné, lui mettant le bassin en miettes. Ce petit monde allait et venait, trottinant, qui sur des béquilles, qui en fauteuil roulant électrique. Les Olympiades des canards boiteux, songeait Peggy que le désespoir rendait méchante. Son attention fut toutefois attisée par l'arrivée en hélicoptère d'une très belle Asiatique ficelée sur une civière. Une Japonaise qu'escortait des hommes en costume sombre aux yeux fureteurs. Peggy avait suffisamment d'expérience dans ce domaine pour flairer la procédure d'exception. Il ne s'agissait pas de simples gardes du corps. Ces types-là appartenaient au service secret. Elle en aurait mis sa main à couper. Si toutefois, elle avait pu s'offrir le luxe de perdre également une main en sus du reste. Ces mecs respiraient le danger, le meurtre et l'efficacité glacée des écoles d'espionnage. Ils encadrèrent la civière, l'escortant à l'intérieur des bâtiments. De quoi s'agit-il cette fois? Demanda Peggy en se tournant vers son infirmière. Une patineuse japonaise, je crois, répondit la garde d'un ton trop rapide. Une championne victime d'un accident de la route. Sa voiture a pris feu. Pas mal de dégâts corporels, mais rien dont ne puissent triompher nos médecins. Ben voyons, ricana mentalement Peggy. Sans doute parce qu'elle était en proie au pire des désœuvrements, Son esprit s'hypnotisa sur le caractère insolite de cette arrivée. En temps normal, elle serait passée à autre chose. Mais ici, à la clinique, tout ce qui pouvait rompre la monotonie des journées était accueilli comme un miracle, et le plus banal des incidents prenait l'allure d'un buisson ardent. Un va-et-vient inhabituel emplissait les couloirs la nuit dans l'aile où se trouvait hospitalisée la belle japonaise. Cela faisait beaucoup de chuchotements, d'ombre et de matériel à déménager. Quant aux infirmiers accompagnant le déplacement des mystérieuses machines, ils semblaient davantage diplômés de la Yasuka High School que de l'école de médecine de Harvard. « Tiens, tiens, » songea Peggy, oubliant pour un instant ses malheurs. « On dirait qu'il se passe enfin quelque chose. » Deux jours plus tard, elle croisa la belle asiatique dans le parc. C'était une grande fille maussade au corps de nageuse olympique, jolie mais glacée, et dont les yeux semblaient voir au travers des gens. Un très vieux japonais l'accompagnait dans sa promenade, poussant le fauteuil roulant de la malade. Tous deux parlaient à voix basse, le visage imperturbable, mais Peggy eut l'impression que la fille insultait le vieillard avec une rage froide qu'elle s'appliquait à dissimuler aux passants. S'agit-il de son père ou de son coach, se demanda-t-elle. En tout cas, ils n'ont pas l'air de beaucoup s'aimer. Les types des services secrets, eux, s'étaient disséminés aux abords du parc. Leur présence n'étonnait personne. Il n'était pas rare, en effet, qu'une vedette du showbiz investisse leur clinique en compagnie des mercenaires chargés de sa sécurité. On avait fini par s'habituer aux allées et venues de ces hommes en noir, tapotant leurs oreillettes ou chuchotant au creux de leurs manches dans des montres bracelets microphones, comme on en voyait dans toutes les séries télévisées. Pour Peggy, il ne s'agissait pas d'un service officiel. FBI, CIA, NSA... Ces gens-là disposaient d'une infrastructure bien à eux. Ils n'avaient nullement besoin d'aller se faire soigner dans une clinique réservée aux gueules cassées du sport de haut niveau. Non, de toute évidence, il s'agissait d'autre chose. La fille éveillait sa curiosité. Enveloppée de pansements, elle présentait néanmoins des traces de brûlure et de quelque chose qui évoquait une aberration pigmentaire. Des taches épidermiques dont le dessin rappelait celui des écailles de serpent. Peggy l'avait observé à deux reprises avec une paire de jumelles empruntées à un compagnon de souffrance. Harrison Noskis, un navigateur solitaire qu'une tempête avait amputé de la jambe droite. « Vous lorgnez la jolie Kangai, » ricana Noskis dans son dos. « Une belle poulette. Mais elle me fait l'effet d'être aussi froide qu'un iceberg. » « Pour une patineuse, ce serait normal, » souffla Peggy sans lâcher les oculaires. « Drôle de patineuse, » grogna l'infirme. « Ma première femme était patineuse de haut niveau. Je l'ai accompagnée dans pas mal d'exhibitions. Je connais bien le milieu. Mais cette Miss Butterfly-là, jamais entendu parler. Jamais vue non plus. Et puis, vous avez vu les cow-boys embusqués dans les buissons? On dirait les clones de Bruce Lee. Vous pensez à quoi, s'enquit Peggy? « C'est pas, » grommela Noskis, la fille d'un pont des triades qui se serait fait amocher par un gang rival. « Possible, » éluda la jeune femme en posant les jumelles sur la rambarde de la terrasse. Ce qui l'intriguait, c'était la colère de l'inconnu aux yeux bridés. Elle semblait nourrir un extrême ressentiment envers le vieil homme qui l'accompagnait, comme si elle le tenait pour responsable de ce qui lui arrivait. Mais que lui arrivait-il au juste? Ijasan allait et venait nerveusement dans le bureau que les chirurgiens avaient mis à sa disposition. Evgeny, en l'observant, se demandait s'il tremblait de colère contenue ou de peur dissimulée. Il commençait à penser que le vieux savant était terrifié par Yumiko. Pressé d'en finir, il demanda « Alors, où en sommes-nous? Ou plutôt, où en est-elle ?» Le japonais haussa ses maigres épaules. Comme tous ses semblables, il n'aimait pas laisser voir ses sentiments. La colère est le propre des imbéciles, des crétins incapables de se contrôler. Il n'était pas de cette espèce. « Elle va mal, » lâcha-t-il enfin. « Je l'ai transfusée en pure perte. Les nanoparticules se sont enquistées dans ses organes. Elles ne veulent pas lâcher prise. J'ai tout essayé, le magnétisme, la chirurgie. Qu'est-ce que ça implique ?» abrégea Evgeny, qui avait horreur des exposés scientifiques auxquels il ne comprenait rien. C'est simple, c'est évident, siffla le japonais. Elle est en train de muter. Elle va devenir incontrôlable parce que son organisme est en pleine transformation. On ne peut plus la réparer. À ce stade, c'est trop tard. Elle nous a rendu d'immenses services. Elle a mené à bien des missions d'une extrême complexité. Mais c'est fini. Elle est fichue. Ses organes vont dégénérer en n'importe quoi. Cela dépendra de la fantaisie des nanomécaniciens. Ils peuvent se mettre dans la tête de la changer en chienne, en dauphin, en bicyclette, pourquoi pas. Tout est possible quand un programme se met à dérailler. Elle va mourir, c'est inévitable. On ne peut pas survivre à de tels bouleversements. Il y a un moment que je prévoyais cela. Alors il faut lui trouver une remplaçante, grogna Evgeny. Le temps presse, les dossiers s'entassent. Isachan écarquilla les yeux, une lueur d'affolement sur le visage. « Vous voulez la mettre sur la touche » balbutia-t-il. « Yumiko ? » Elle s'en rendra compte. Elle se doutera de quelque chose. Si on la contrarie, il faut s'attendre au pire. Elle est dangereuse. Très dangereuse. Je le sais aussi bien que vous. N'oubliez pas que nous avons été deux à la fabriquer. On ne peut pas la faire assassiner, souffla le vieil homme d'un ton apeuré. Elle déjouerait la tentative, elle se retournerait contre nous. Je ne veux pas courir ce risque. Evgeny haussa les épaules et passa la main droite dans ses cheveux en brosse. Le Kremlin produisit un crissement de chaume. On ne la tuera pas, fit-il. On va l'envoyer à la campagne se reposer. Une sorte de convalescence. On attendra simplement que les nanoparticules fassent le travail à notre place. Une nuit, ses organes exploseront. Et elle mourra sans même en avoir conscience. Espérons-le, haleta Isachan dont le menton tremblait. Dans le cas contraire, elle nous réduira en pièces. Et vous savez comme moi qu'il ne s'agit pas d'une simple façon de parler.